La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble chaque soir pendant 30 minutes pour décrypter l'actualité locale. Et ce soir, c'est Léo qui a reçu en studio Jean-Yves et Jean-Paul, président et vice-président de l'association France-Palestine Solidarité 49. Au programme, discussion autour des actions de sensibilisation menées par l'asso et évidemment retour sur l'actualité internationale plus récente. Enfin, avant de conclure cette émission, vous pourrez entendre une chronique sportive réalisée dans les dernières semaines par Firmin que nous avions en stage à la rédaction. Très bonne émission à toutes et à tous.
Le 17 avril dernier, la section angevine de l'association France-Palestine Solidarité, l'AFPS, s'est rendue dans les rues d'Angers. L'occasion de sensibiliser les habitantes et habitants à la journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens. La question israélo-palestinienne est relativement sensible. On va essayer d'apporter quelques éclairages sur l'association AFPS 49 et l'actualité internationale avec Jean-Paul Roche, vice-président de l'asso et ancien président, et Jean-Yves Dubré, qui est l'actuel président de l'association. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, quelques mots au sujet de l'asso. Le but de l'AFPS, c'est le soutien aux Palestiniens dans la lutte pour la réalisation de leurs droits nationaux. On compte à peu près 5000 adhérents en France, selon les derniers chiffres, et une centaine de groupes locaux. Quelle est la position défendue par l'association, sa raison d'être ?
Sa raison d'être, elle est assez simple, hein. C'est effectivement d'apporter un témoignage de notre solidarité à un peuple qui est victime d'une injustice historique depuis, je dirais, depuis un siècle pratiquement, et en tout cas depuis, très particulièrement depuis 1967, où l'ensemble de l'ancienne Palestine historique a été occupée par Israël.
Oui, un petit point historique, hein, le conflit israélo-palestinien, il remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain de la proclamation de l'État d'Israël en mai 48, une coalition d'États arabes voisins attaque. Il y a eu ensuite des nouvelles confrontations en 56, en 67, en 73, sans oublier les deux guerres des pierres, les intifadas, mais pour autant c'est un conflit qui est tout à fait d'actualité. Comment ça se passe à Angers en termes d'adhérents, d'actions que vous pouvez mener ?
Oui, alors en termes d'adhérents, eh bien on a un nombre d'adhérents qui est assez stable et relativement important pour une association de notre type, puisqu'on est entre, selon les années, entre 160 et 180 adhérents, mais quand même principalement sur l'agglomération angevine. Notre action, en temps normal, nous avons des interventions comme celle dont vous parlera Jean-Yves tout à l'heure et qu'on a pu faire la semaine dernière, le 17 avril, des interventions dans la rue, en fonction de l'actualité notamment. Et lorsque l'actualité est particulièrement chaude, eh bien à ce moment-là, il y a effectivement, y compris des manifestations de rue. Sinon, nous organisons régulièrement des conférences, des soirées d'information, de débats avec des personnalités que nous invitons.
Et vous avez réussi à maintenir un petit peu la vie associative pendant le contexte sanitaire. Vous parliez de soirées en conférence, vous vous êtes peut-être mis en visioconférence, ce genre de choses ?
La vie de l'association, effectivement, a continué. On a été obligé d'avoir recours, effectivement, à de la visioconférence. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, effectivement. Les invités qui sont habituellement venus jusqu'ici, jusqu'à présent, ça s'est ralenti. Hein. Toutes les manifestations, voilà, tout ce qui était physique ne pouvait pas se faire. Donc ça nous a effectivement ralenti. Ceci dit, on a réussi à maintenir une activité en direction de la population locale. Même s'il n'y a pas de réunion physique, nous, on est allé au devant de la population à plusieurs reprises, dont la dernière fois, c'était le 17 avril.
Jean-Paul, vous parliez d'à peu près entre 160 et 180 adhérents dans le département. Au niveau du renouvellement des membres, il y a beaucoup de...
Alors, le renouvellement, il se fait, mais vous aurez peut-être remarqué, en nous voyant entrer dans votre studio, qu'on a un problème générationnel. Il y a des jeunes qui adhèrent, mais qui vont partir après leurs études, qui vont... Voilà. Et donc, on a beaucoup de mal à avoir des adhérents... des tranches d'âge, je dirais surtout d'ailleurs entre 30 et 50 ans, où là c'est un peu 30-55 ans, c'est délicat. Sans doute en fonction des contraintes de travail d'aujourd'hui.
Et ça fait combien de temps, tous les deux, que vous êtes engagés dans l'association à peu près ?
Alors moi, c'est beaucoup plus récemment. C'est surtout que j'ai participé à un voyage sur place avec Jean-Paul qui l'avait organisé en 2018. Mais je suis déjà engagé depuis 6 ans dans l'association Al-Kamandjati qui s'occupe de la création des écoles de musique en Palestine, avec des actions ici sur Angers également dans les quartiers.
Moi, c'est un peu plus ancien, hein, puisque c'est une cause que je connaissais depuis pratiquement toujours. Hein. J'ai été particulièrement choqué il y a 20 ans, 21 ans bientôt, au début de ce qu'on appelait la deuxième intifada, par la répression brutale et absolument sanglante de ça. Et à ce moment-là, on a voulu créer cette association et on l'a créée à partir de réseaux très complémentaires les uns des autres. On avait à la fois des gens qui étaient, je dirais, pour certains des militants politiques, d'autres pas du tout, qui étaient des militants associatifs, d'autres qui étaient issus des milieux chrétiens, par exemple. Et ça nous a permis, je pense, de fonctionner de manière efficace.
Oui, ça apporte de la richesse au tissu associatif.
Parce qu'on n'est pas, une organisation politique, mais on intervient sur le terrain politique en intervenant notamment de manière récurrente en direction des parlementaires pour faire que la France prenne une position équitable sur cette question.
Il y a une dizaine de jours, je le disais en introduction, vous organisiez une après-midi de sensibilisation à la cause que vous défendez dans les rues d'Angers. Quel bilan vous en tirez un petit peu et comment vous vous y êtes pris pour l'organisation ?
On a choisi l'après-midi du samedi en centre-ville et on a eu vraiment pas une surprise, mais en tout cas, ça a été très agréable de constater qu'on a eu quand même beaucoup de gens de passage et beaucoup de gens qui ont pris le temps de s'arrêter pour discuter, nous poser des questions. Ils s'intéressaient effectivement à la question et en nous manifestant la volonté de vouloir aller plus loin, soit en nous laissant leurs coordonnées, soit en demandant où est-ce qu'ils pouvaient s'informer un petit peu plus. Et on parlait tout à l'heure de la question de la génération, des questions générationnelles qui fait que les plus jeunes sont moins présents à l'heure actuelle dans l'association. Je pense qu'effectivement, il y a la question du temps qui passe, des événements qui durent, un conflit, qui en fait actuellement, ce terme est un peu impropre, puisqu'en fait on a un déséquilibre tellement important. Mais le temps passe, effectivement, les plus jeunes générations ont peut-être moins perçu l'histoire qui se déroulait, ou aussi, des jeunes nous l'ont dit, hein, dans la rue, en disant, mais ça dure depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout. Donc ils sont contents qu'on s'en occupe, hein, ils nous disaient, en ville, ils nous disaient bravo, continuer, etc. Mais c'est quelque chose qu'ils ont un petit peu du mal à saisir, dans la mesure aussi où les médias présentent les choses comme étant un conflit entre deux puissances, alors que ce n'est pas le cas du tout, et qui s'éternisent. Et on a une espèce d'équilibre, comme si on ne pouvait pas parler des choses. Par exemple, de tous les faits qui vont faire l'objet d'une enquête de la Cour pénale internationale.
Et on va y revenir, bien sûr.
Voilà, du côté d'Israël, eh bien, on voit que dans les médias, très souvent, quand on parle de ça, on veut mettre en équilibre de l'autre côté en disant oui, mais de l'autre côté aussi, il faut dire que, etc. Et quand on regarde les choses, on est dans une situation où on a une population qui est au quotidien humilié et qui est face à un régime bureaucratique qui vise effectivement à leur rendre la vie impossible. Il y a un déséquilibre permanent.
Vous vous êtes rendu 2 fois en Palestine en 2018, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire vivre sur les territoires palestiniens aujourd'hui au niveau des conditions de vie ? Vous êtes allé à Gaza ou en Cisjordanie ?
Alors pas à Gaza parce que les conditions d'accès sont extrêmement compliquées. En Cisjordanie, effectivement, à Ramallah, à Naplouse, à Jéricho. C'est en fait... Quand on y va, d'abord visuellement, c'est très choquant parce que où que l'on se tourne, on a présence dans son champ visuel du mur de béton. On a sur tous les sommets des collines, on a les colonies. Et donc, on a ça en permanence dans le champ visuel. Autrement dit, on ne peut pas vivre sans le voir. Donc, la question moi, que je posais aux Palestiniens qu'on a rencontrés, c'est comment vous faites aussi pour vivre alors que vous avez tout le temps, vous êtes rappelé au fait que vous avez cette situation particulière où sur des territoires qui sont... même historiquement des territoires qui sont votre terre, vous avez des gens qui viennent s'installer et qui prennent votre eau, vous enlèvent vos terres. Quand je posais la question, mais comment vous faites pour vivre, il disait, c'est au jour le jour. Et quand on disait, qu'est-ce qu'on peut faire, il disait, surtout, nous, ce qu'on a besoin, c'est que vous témoigniez. Des femmes nous disaient, mais nous fêtons tout ce qu'on peut, les fêtes familiales, etc. On se réunit. Et la culture, en particulier la musique, c'est quelque chose de fondamental parce que sinon, en tant qu'être humain, on ne pourrait pas vivre. En étant confronté tous les jours à tous les contrôles, on ne peut pas se rendre quelque part, on ne peut pas estimer le temps qu'on va mettre parce qu'il y a toujours des contrôles en permanence, sans compter que les enfants par exemple, également, je ramène plein d'éléments, mais parce que je trouve que c'est important à comprendre. Les enfants sont à 30 km de la mer et pour beaucoup, ils n'ont jamais eu accès à la mer.
J'ajouterais qu'il faut bien qu'on se rende compte que les gens qui ont 70 ans ou plus...
Ils n'ont connu que ça.
Ils n'ont connu que ça. Mmh. Six habitants en Cisjordanie n'ont pas tout à fait connu que ça, parce que c'est simplement depuis 1967, ça fait donc un peu plus de 50 ans. Mais enfin, ça remonte quand même à pas mal de temps.
Oui, c'est la majorité
de la vie,
en tout cas.
Et donc, il faut vivre dans ces conditions. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Mmh. On ne peut pas être dans la plainte. Il faut assurer. Hein. Et ça, c'est ce qui est absolument frappant, c'est la façon avec laquelle ils assurent. Et ce qui nous étonne beaucoup, quand certains évoquent la violence des Palestiniens, on dit, mais attendez, vous rêvez, là. Vous seriez dans une situation comme ça, vous auriez tendance à être violent. Ils ne le sont pas, globalement, absolument pas. Hein, absolument pas. Avant-hier, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité à Jérusalem.
Effectivement.
Hein, avant-hier, des colons extrémistes qui ont envahi la vieille ville, provoquant des heurts, etc., etc. Les Palestiniens ont fait face, la jeunesse s'est regroupée, a essayé de se défendre. Ils ont été arrêtés, bien sûr, jets de pierre, mais les autres, ils étaient armés, etc. etc.
Ils ne luttent pas avec les mêmes moyens, bien sûr.
Voilà.
Sur le site national de l'AFPS, il est question de défendre quatre grandes positions liées au conflit. Je vous propose qu'on les aborde l'une après l'autre, au regard de l'actualité, ou dans les grands derniers événements des dernières années, pour bien comprendre les actions que l'association mène. D'abord, il est question de mettre fin à l'occupation des territoires envahis en 1967 et de démanteler les colonies, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, à l'issue du conflit de 67, Israël quadruple sa taille. Aujourd'hui, la population palestinienne est rassemblée dans deux poches, la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, même si, bien sûr, Israël compte à peu près 20% d'Arabes dans sa population. On compte à peu près 455 000 Israéliens qui sont installés en Cisjordanie, 200 000 à Jérusalem-Est. Comment est-ce qu'on a pu laisser... Enfin, comment est-ce qu'un tel phénomène a pu se développer depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui ?
Mais je crois que c'est vous qui avez presque répondu. Comment on a pu laisser ? C'est parce qu'il n'y a pas eu d'intervention extérieure pour s'y opposer. C'est parce que de manière systématique, la première puissance mondiale, les États-Unis, ont toujours appuyé cette politique de colonisation. Toujours, toujours, quelles que soient les administrations en place. Même si chaque administration est particulière, nous ne mettons pas de signe égal entre Biden et Trump, par exemple. Hein. Mais la France, par exemple, pour revenir à notre pays, la France a souvent des positions affirmées qui peuvent être bonnes, sauf que ces positions ne se concrétisent jamais dans les faits. Il ne suffit pas de dire c'est illégal, etc. Il faut s'y opposer. Nous demandons que la France accorde ses paroles et ses actes et qu'elle aborde ouvertement la question des sanctions. Comment s'opposer à cela ?
Il y a aussi le problème de... Je vous donne la parole après, Jean-Yves, au niveau de l'attitude de Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui dit ouvertement qu'il ne respecterait pas les résolutions, les avis de l'ONU qui allaient à l'encontre de la colonisation. Il faut aussi traiter avec ce personnage.
Oui, ça a toujours été, de toute façon, la position d'Israël d'avancer et de mettre le monde entier devant le fait accompli. Même les gouvernements dits de gauche en Israël ont continué effectivement la colonisation. Alors, on pourrait juste un tout petit peu s'arrêter sur la question de la colonisation. On voit bien comment nous, en France, on a encore des difficultés à concevoir ce qu'on a fait du côté de l'Afrique du Nord en Algérie. Et toutes ces situations, effectivement, où un pays vient imposer sa présence et sa culture, enfin, etc., au détriment d'une autre population qui est déjà existante, ça a des conséquences qui sont... Alors, les Israéliens, une partie des Israéliens le disent eux-mêmes, hein, en disant « on ne pourra pas s'en sortir si on ne règle pas cette question de la colonisation et de l'occupation ». On ne peut pas dire qu'une occupation qui dure depuis, alors, 67 en particulier, ça soit sans effet sur le pays qui est occupant. L'impact le plus direct, par exemple, dans les familles, ça se mesure au fait que les enfants sont tenus de faire des services militaires, et vont effectivement, pour un certain nombre, sont envoyés dans les territoires dits occupés, dans des zones où c'est l'armée qui fait la loi. Et les mères disent, mais quand ils arrivent à 18 ans, l'armée nous mange nos enfants. C'est-à-dire que quand ils reviennent, s'ils ne sont pas blessés physiquement, en tout cas, ils sont psychiquement transformés. Les mères israéliennes se sont en particulier réunies dans des associations pour interpeller le gouvernement israélien, pour dire « Mais qu'est-ce que vous faites pour la paix, pour arrêter ça ? On ne peut pas continuer comme ça éternellement, ça ne pourra pas continuer éternellement. » Elles n'ont eu aucune réponse. C'est-à-dire directement à la Knesset, Netanyahu a dit « Mais vous n'y connaissez rien, c'est pas à vous. » Et en fait, il a dit « Mais on ne peut rien faire nous-mêmes en tant qu'Israéliens parce qu'on n'a personne avec qui discuter. Sauf que quand on regarde la réalité des choses, Israël, avec sa force armée, s'est organisé pour ne pas avoir d'interlocuteur en face, pour pouvoir dire ensuite on n'a personne avec qui discuter. La meilleure preuve, c'est qu'avec les élections palestiniennes qui s'annoncent, l'une des figures palestiniennes, hein, qui est Marwan Barghouti, est en prison depuis très longtemps, et que actuellement encore, la moindre manifestation pour les élections qui s'annoncent, eh bien, les gens sont emprisonnés et sous des régimes arbitraires, administratifs, etc. Et les Israéliens, un certain nombre en tout cas le disent, B'Tselem, un certain nombre d'organisations bien connues, des ONG, disent, mais de toute façon, le pays, le gouvernement actuel d'Israël en tout cas, ne fait rien pour aller du côté de la paix.
Deuxième point, ça concerne le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et la création d'un État indépendant avec Jérusalem Est comme capitale. Le sujet de Jérusalem, la ville sainte des trois religions monothéistes, est très délicat. On en a parlé avec l'actualité il y a quelques instants. Les autorités israéliennes souhaitent faire de la ville la capitale indivisible d'Israël, tandis que les Palestiniens souhaiteraient faire de l'Est leur capitale. On est encore loin de pouvoir imaginer un État d'Israël indépendant aujourd'hui.
Je crois qu'il faut être bien conscient que la solution à laquelle les Palestiniens ont droit, le droit d'établir un État à côté de l'État d'Israël, cette solution-là, on l'a complètement minée et elle est extrêmement fragilisée. Alors nous continuons à dire que les Palestiniens ont droit absolument à un État à côté de l'État d'Israël. Nous continuons à demander la reconnaissance de cet État au plan juridique. Il faut savoir que d'ailleurs, et le Sénat et l'Assemblée nationale avaient voté des résolutions il y a quelques années pour demander au président de la République de le reconnaître. C'était à l'époque de François Hollande. Hein. Voilà, ça n'a pas été fait. Il était dit, ça sera le moment venu. Ce moment n'est pour l'instant jamais venu. Soyons réalistes, considérons les choses. Autant nous disons cela, autant nous disons, mais en attendant, les Palestiniens ont le droit de vivre comme des êtres humains. Et toute une partie de la jeunesse palestinienne aujourd'hui ne se pose plus de cette façon la question. Elle veut la question de l'égalité des droits. C'est-à-dire, vous ne voulez pas qu'on ait un État ? Eh bien, on est tous ensemble alors dans le même État. Malheureusement, c'est une partie de la population qui domine. C'est donc un État d'apartheid. Mais nous, comptez sur nous, nous ne partirons pas. Nous resterons là et nous voulons vivre à égalité entre tous. Et la question qu'Israël devienne un État de tous ses citoyens, c'est donc une question qui est vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui, que le peuple palestinien, dans sa jeunesse en tout cas, pose avec beaucoup de fermeté.
On peut s'interroger aussi sur l'attitude des autorités palestiniennes entre le Hamas qui a tendance à prôner la destruction d'Israël et le Fatah.
La destruction d'Israël, d'ailleurs le Hamas, il a changé de charte il y a quelques années et il ne pose plus, pose pas ça en ces termes. Hein. Malheureusement, la division politique et géographique entre Gaza et la Cisjordanie, c'est quelque chose de dramatique et ça a été, je dirais, c'est une victoire stratégique des Israéliens. Il faut bien voir que le peuple palestinien, en plus, il a une unité. La Palestine, c'est quelque chose qui reste vivant, pas simplement pour les Palestiniens qui habitent en Palestine, c'est vivant aussi pour les citoyens palestiniens d'Israël, les Arabes israéliens, qui
pèsent
de leur poids, hein, etc. Et c'est valable aussi pour les Palestiniens des camps de réfugiés à l'extérieur de la Palestine, et notamment les nombreux réfugiés de Jordanie et du Liban.
Et à propos justement de réfugiés, troisième point défendu par l'association, c'est la reconnaissance du droit au retour des réfugiés. On parle ici de familles qui ont quitté leur terre face à la colonisation, oui, et des réfugiés de plus longue date dans les pays, oui, alentours, vous l'avez dit, l'Égypte, la Jordanie. Il y a 2 ans, des marches pour le droit au retour avaient été organisées, vite réprimées par l'armée israélienne. Et ce qui m'avait interpellé lors de ces marches et d'autres contenus que j'ai consultés liés à ce conflit, c'était de voir des gamins d'à peine 15 ans qui voulaient en découdre et dire explicitement que ce soit côté palestinien ou israélien, Israéliens leur haine de l'autre. Est-ce que ce n'est pas un argument de plus pour dire que la paix en Israël-Palestine, ce n'est pas pour tout de suite?
Bah, je ne suis pas sûr que votre lecture, en tout cas, je la partage pas, parce que ces jeunes qui voulaient, vous dites qu'ils voulaient en découdre, ces jeunes, ils voulaient franchir les barbelés qui les enferment à Gaza. Gaza, bande de...
40 km de long et 6 à 12 de large.
270 km². Hein, voilà, ça fait quand même extrêmement peu. Quand on n'est jamais sorti de ça, et qu'on a 15 ans, qu'on n'a jamais rien vu, je peux vous dire, c'est quelque chose. Lors de ces marches du retour, ça a été un véritable massacre. Et d'ailleurs, ça va peut-être nous amener au sujet de la CPI.
Le dernier sujet, oui.
Puisque c'est notamment... à partir de ces événements, que le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, a décidé l'ouverture d'enquêtes approfondies. Pas simplement là-dessus, mais parce qu'il y avait, au fond, c'était ce qu'on peut appeler des snipers, hein, alors qui tiraient soit directement pour tuer, soit pour blesser et handicaper à vie.
Merci Jean-Paul pour cette transition. On va venir au dernier point. Effectivement, le journal L'Humanité titrait en février 2021 « La justice internationale va enquêter sur les crimes de guerre d'Israël ». C'est-à-dire que la CPI, la Cour pénale internationale, s'est déclarée compétente pour examiner les actions d'Israël en Palestine. L'autorité palestinienne l'avait saisie en 2018 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette annonce ?
Je pense que c'est très important au plan, je dirais, pour le principe déjà. Est-ce que ça débouchera, ça sera sans doute à l'issue d'un long processus. Déjà, le processus a été extrêmement long parce que Fatou Ben Souda a été extrêmement prudente et il a mené une enquête approfondie sur la réalité des faits, d'une part, des faits qui sont susceptibles d'être qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, mais aussi pour s'assurer que... puisqu'Israël ne reconnaît pas la Cour pénale
et que
la Palestine le reconnaît, qu'elle était bien fondée sur le territoire dévolu à la Palestine, y compris donc Jérusalem-Est. Et
dans les frontières de 67.
Et le bureau d'enquête lui a répondu oui. Donc la procédure est lancée. Ça, c'est quand même extrêmement important. Parce que il pourrait y avoir quelques personnages, par exemple, qui hésitent à faire des voyages à l'étranger. Ça pourrait avoir cette conséquence-là, même si nous sommes conscients du déséquilibre extrêmement important et on voit mal quel pays européen aujourd'hui, par exemple, oserait, lorsqu'un général... imaginons un général mis en cause pour l'affaire de Gaza dont vous parliez tout à l'heure, atterrirait à Bruxelles, par exemple. Je ne suis pas persuadé que la Belgique oserait... pas la Belgique, un juge belge, ouais, l'incarcérer. Comme cela avait été fait au nom de la compétence universelle, il y a longtemps, pour le général Pinochet.
Et ça s'annonce délicat, effectivement, puisque à peine cette décision de la CPI sortie, on a eu le Premier ministre israélien, Netanyahou, qui... sortait tout de suite les accusations d'antisémitisme.
Oui, ce qui est classique dans ce genre de choses. Dès que l'on dit quelque chose contre les actions du gouvernement israélien actuel, c'est la réponse qui est donnée d'abord pour stopper, pour freiner tout débat.
Parce que c'est bien de ça dont on parle, les actions du gouvernement, bien sûr.
Absolument. Je pense qu'on peut mesurer effectivement l'importance de cette décision de la CPI quand on voit dans quel embarras, justement, le gouvernement d'Israël a été pour répondre. Ils avaient un mois pour demander un report, et la seule réponse que Benjamin Netanyahou a faite, c'est « nous allons montrer que notre État est capable de faire des enquêtes internes ». Mais c'est tout. C'est-à-dire que, de toute façon, ils étaient un petit peu, on va dire, dans une impasse pour répondre, dans la mesure où répondre, c'était déjà rentrer dans le processus, et donc ils ont été extrêmement gênés, de toute façon. Et donc il y a un pas qui a été franchi, vraiment.
Et de toute manière, s'il y a une enquête interne qui est menée, que ce soit par la Palestine ou par Israël, il y a quand même une grande probabilité qu'elle soit biaisée. Donc autant avoir une enquête indépendante.
On le sait, dans la mesure où des ONG ont déjà demandé des enquêtes en interne sur des faits très précis, documentés, sur justement des enfants qui ont été tués par des snipers, avec des enregistrements vidéo qui ont été faits, et toutes les exactions que l'on peut avoir répertoriées de colons vis-à-vis des populations locales palestiniennes. Des demandes d'enquête ont été faites auprès des autorités militaires, puisque de toute façon c'est elles qui interviennent dans ces cas-là. Les enquêtes n'ont jamais abouti à la mise en cause de qui que ce soit. de toute façon, en interne. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'Israël a déjà dressé une liste de noms, alors je ne sais plus si c'est 300 ou je ne sais pas combien, de personnes physiques qui seraient susceptibles d'être inquiétées par l'action de la CPI suite à l'enquête. Donc ce qui veut dire qu'ils anticipent déjà, effectivement, qu'il y a un certain nombre de faits qui pourraient se révéler être extrêmement gênants. Hein, pour l'action qui a été organisée hein, de façon systématique, puisque dans les trois choses que le CPI se donne comme objet d'enquête, on a un, l'intervention militaire contre Gaza, bordure protectrice en 2014, le fait que la CPI dit c'était disproportionné en termes de force, donc à démontrer après avec enquête, parce que ça fait quand même un nombre de morts considérable du côté civil à Gaza, alors qu'il y a eu quasiment, enfin il y a eu très peu
on a 2000 morts côté palestinien, voilà. 70 côté israélien.
Et des militaires essentiellement côté israélien. Et puis deuxièmement, c'est effectivement les marches du retour de la terre pour des jeunes qui effectivement qui voulaient protester. Je ne pense pas qu'ils voulaient de toute façon attaquer et franchir violemment la frontière.
Ils n'ont pas les moyens de toute manière.
Ils n'avaient aucun moyen pour le faire. Hein, donc ils faisaient de la fumée, ils étaient avec des drapeaux et ils se faisaient tirer comme des lapins par des gens qui étaient situés parfois à 500 mètres, hein, de toute façon avec des fusils à lunettes. Et puis enfin, un autre champ d'enquête qui est la colonisation, qui est permanente et qui continue depuis des années et qui en fait consiste à s'accaparer des terres de façon tout à fait illégale et de chasser des populations de leur domicile, tout comme par exemple en ce moment on le voit à Jérusalem-Est dans les quartiers de Silwan et Sheikh Jarrah, effectivement, où même les tribunaux, alors ça aussi c'est un fait important à connaître, c'est que l'appareil judiciaire israélien avalise des choses qui, dans tout autre pays au monde, seraient illégales, considérées comme illégales. À savoir, il dit, oui, on peut chasser des gens de chez eux et mettre à la place des colons israéliens. Dans des cas, des gens sont là depuis 70 ans, puisqu'ils avaient quitté leur village pour venir s'installer là au moment de la Nakba. Et maintenant, on vient les chasser de chez eux en disant, c'est légal. Ils doivent s'en aller et laisser la place. Donc tout ça, effectivement, font partie des champs que la CPI voudrait pouvoir investir. Je pense qu'Israël ne va pas vouloir se laisser faire, mais c'est une situation, effectivement, qui, par rapport à ce qui était l'année dernière encore, était effectivement assez pensable encore. Donc, tant mieux, hein, c'est un pas en avant.
Dernière,
un petit scoop qui n'en est pas un, parce que, mais presque, vous allez voir demain, à 6h du matin, 0h, heure de New York, il y aura des révélations importantes sur la situation d'apartheid en Israël, par une organisation internationale des droits de l'homme.
Eh bien, on suivra tout ça avec attention également. Merci Jean-Paul et Jean-Yves d'être passés dans notre studio pour apporter vos éclairages. Vous pouvez suivre toutes les activités de l'AFPS, que ce soit dans l'Anjou ou à l'échelle nationale, sur leur page Facebook et sur le site de l'association France-Palestine Solidarité. Merci à vous deux.
Merci. Merci.
Et merci évidemment à Léo pour cette discussion. Il nous reste, avant de nous quitter, le temps d'écouter une chronique réalisée par Firmin, qui était en stage au sein de la rédaction ces dernières semaines. Il nous parle de sport, on écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous parle d'actualité sportive locale. On commence avec du football et tout va mal du côté d'Angesco. Depuis l'annonce du départ du coach angevin et d'une partie du staff à la fin de la saison, le club angevin ne compte que 2 victoires en championnat sur la phase retour. La dernière remonte au 3 mars dernier. Assuré d'être maintenu, le SCO d'Angers se classe 11e de Ligue 1 avec 41 points. Il reste en lice pour la Coupe de France. Les Angevins se déplaceront au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France. Un match qui s'annonce difficile face à des Parisiens en course pour le titre européen. De plus, l'infirmerie est bien remplie avec 8 joueurs blessés et un 9e pourrait rejoindre cette liste. Il s'agit d'Angelo Fulgini, qui a prématurément quitté l'entraînement mercredi après avoir ressenti une douleur au niveau de la cuisse. Restons avec le SCO d'Angers, mais partons en athlétisme. À 99 jours des Jeux Olympiques de Tokyo, la sprinteuse angevine Amandine Brossier est partie en Corse pour un stage de quelques jours. Un stage de sa propre initiative et une manière de se ressourcer hors d'Angers. Dans le journal local Corse Matin, Amandine Brossier explique que s'éloigner d'Angers permet de créer une bulle et de mieux se reconcentrer. La championne de France indoor poursuit sa préparation pour les JO et se prépare pour les championnats du monde du relais qui se dérouleront le 1er et le 2 mai. Toujours avec le SCO d'Angers attelé, la course solidaire est connectée, Peloy Angers 2021 tire son bilan. Pour l'association Fé2A et Louis Delouis, 422 participants se sont mobilisés dans 13 départements et 4 pays différents. Chaque participant a pu acheter un dossard connecté au prix de 5€ afin de réaliser 5, 10 ou 15 km. Au total, 3765 km ont été parcourus et plus de 2100€ ont été récoltés par le club. Des fonds qui seront entièrement reversés à la Fé2A et Louis Delouis.
Et merci à Firmin également. Et voilà, il est quant à nous l'heure de nous quitter. On se retrouve demain. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus.